Bonjour à tous. Passionnée par mon métier, j'ai créé le blog The Office Unicorn pour révéler le pouvoir magique des assistantes, ces licornes invisibles du bureau. The Office Unicorn, le seul blog écrit par une assistante de direction, avec des retours d'expérience, un espace membre avec partage de fichiers, des rencontres pour une mise en lumière des assistantes. À travers ce podcast, je souhaite mettre en lumière la communauté des assistantes à travers des témoignages, interviews et partage de bonnes pratiques. Rejoignez la communauté The Office Unicorn sur Facebook, Twitter, LinkedIn. The Office Unicorn, le podcast des assistantes digitales et créatives. La magie, c'est vous.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Aurélie du blog The Office Unicorn. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Jennifer Chamberlain, qui est assistante virtuelle depuis de nombreuses années, et elle va nous faire un témoignage, un retour d'expérience sur son expérience en tant qu'assistante freelance, parce que je sais qu'on est nombreuses à se poser la question après quelques années de travail, si on souhaite toujours exercer cette activité au sein d'entreprise, ou si au contraire on recherche un peu un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, éventuellement avec un statut d'assistante freelance. Je propose à Jennifer de se présenter, son parcours professionnel.
Bonjour Aurélie, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc oui, comme Aurélie l'a dit, je suis assistante virtuelle bilingue depuis bientôt 4 ans. J'habite à côté de Meaux dans le 77 et je suis donc Seine-et-Marnaise depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis devenue assistante virtuelle suite à un changement de direction et une réorganisation d'équipe dans mon ancien travail qui a fait que j'ai voulu réfléchir à travailler autrement, à éviter les trajets jusqu'à Paris, etc. Et j'ai toujours été donc assistante direction. Je l'ai fait depuis 2001 quand j'ai commencé en tant que secrétaire junior et c'est vraiment une nouvelle vie. Et je suis ravie.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus qu'est-ce qu'une assistante virtuelle ?
Pour moi, je suis restée dans le classique, c'est-à-dire qu'avec avec donc mon entreprise qui s'appelle My Bilingual VA, je pose les services par rapport à tout ce que j'ai pu faire dans mes emplois précédents. Donc assistant direction, bah forcément c'est de l'assistanat, c'est des tâches régulières, quotidiennes et habituelles comme la gestion d'agenda, gestion d'email, les notes de frais, les préparations des déplacements. L'organisation de réunions, de séminaires. Donc, ça reste assez classique, sauf que avec les moyens technologiques à notre disposition aujourd'hui, ben, on n'a pas besoin d'être collé à la personne dans le même bureau pour pouvoir effectuer ses tâches.
Tu es une assistante indépendante, tu exerces ton métier chez toi?
Oui,
c'est ça.
Je suis chez moi, donc c'est-à-dire que quand j'ai commencé sur la table du salon, ce qui n'était pas forcément très confortable parce que les chaises qu'on peut avoir dans nos salles à manger ne sont pas les chaises de bureau, ne sont pas les fauteuils. Mmh. Et puis en plus, dès que la famille rentrait, il fallait que je range tout, etc. J'ai hérité d'un vieux PC que mon mari avait, un PC portable, donc j'ai commencé là-dessus, ce qui n'était pas du tout pratique non plus. En fait, on a la chance dans notre maison d'avoir un grenier qu'on était en train d'emménager. Au lieu de faire la chambre des enfants en premier, j'ai dit à mon mari, il va falloir faire la chambre d'amis en premier parce que ça va devenir mon bureau. Donc aujourd'hui, je suis dans mon bureau, qui est ici derrière que vous ne voyez pas.
Je recommanderais quand même, c'est une personne qui souhaite se lancer en freelance, quand même l'indispensable, c'est d'avoir, comme toutes les assistantes qui découvrent le télétravail, c'est quand même d'avoir son espace de bureau approprié. Avoir un bon ordinateur, une imprimante, enfin le kit de base, un second écran parce que toutes les personnes qui travaillent sur deux écrans ne peuvent plus s'en passer. Là je suis en remote work avec le confinement, avec un seul écran et je suis en souffrance. Voilà, et quels sont les outils que tu conseillerais parce que on l'expérimente avec le télétravail, on voit bien qu'il faut des outils quand même quand on collabore à distance. Il faut un package d'outils. Quels sont les outils que toi, tu recommandes en tant que freelance ?
pour les outils. Alors moi, la première chose que j'ai achetée, en fait, c'est une bonne imprimante, une imprimante performante qui fait scanner, qui fait photocopie et qui imprime en couleur. Ça, c'était pour moi, c'était essentiel. Donc, et je suis ravie parce que bah, 3 ans plus tard, j'ai encore la même et elle fonctionne très bien. L'imprimante, c'est la première chose. Ensuite, bah, le PC. Donc, comme je disais, moi, j'ai commencé sur un PC qui était vieux, etc. Je me suis racheté un PC après. Les logiciels qui sont importants. Donc, tôt, je préfère Microsoft. J'ai été habituée à travailler avec Microsoft depuis de nombreuses années. Je ne peux plus m'en passer. Du mal avec la suite Google, etc. Bien que je l'utilise avec certains de mes clients et c'est pas un problème, mais je reste une fille Microsoft.
C'est un must-have effectivement, le pack Office. Mais en dehors du pack Office, il y a quand même des spécificités en tant qu'indépendante. T'as des forfaits horaires en fait, hein, 5, 10 heures, etc. Enfin, comme beaucoup d'assistantes indépendantes. Donc fatalement, bah, tu dois rendre des comptes à tes clients et leur dire bon, ben voilà, vous avez utilisé tant de votre forfait. Si vous ne l'avez pas épuisé, ce sera reporté le mois suivant. Tu as un outil qui comptabilise le nombre de minutes que tu as passé pour effectuer cette tâche. Alors, quel outil tu utilises ?
Tout à fait. Alors, les autres outils que moi, je préfère, moi, j'utilise myhours.com. Alors, effectivement, c'est en anglais, mais c'est juste le premier que j'ai essayé. J'ai trouvé que ça marchait bien et du coup, je ne l'ai jamais lâché. Mais il y en a d'autres. Il y a minutedoc.com, il y a Toggle. Voilà, il y a plusieurs solutions. Moi, ce que j'aime bien, c'est que bah, je peux noter le temps que je passe et ensuite, je peux générer des rapports, etc. Voir la différence entre les activités. Alors moi, je note absolument tout. C'est-à-dire, même mes activités bénévoles, je les note. Pourquoi ? Parce que ça me permet de savoir combien j'investis dans ces activités-là et ça me permet aussi de voir à la fin de la semaine bah, où est passé mon temps. Mais ça, c'est mon choix perso. Ensuite, donc ça permet de générer des rapports, etc. Et en plus, de voir l'évolution de son activité. Parce que quand on démarre, on ne va pas commencer tout de suite avec 35 heures facturées par semaine. Sauf si on est sur place. Et là, effectivement, le temps monte très, très vite. Mais quand on est chez soi, faire 35 heures pour les clients, c'est juste impossible. C'est impossible. D'accord. Parce qu'on n'a pas forcément la charge de travail qui fait que. Et ensuite, on a ses propres activités, tout ce qui est prospection, facturation, préparation de notre communication si on est sur les réseaux sociaux, préparation des flyers. Tout ça, c'est du temps qu'on travaille, mais qui n'est pas facturé.
D'accord. Et oui, il y a toute cette phase, effectivement, quand tu démarres en tant qu'assistante freelance, il y a toute une campagne de communication, prospection, en tant qu'assistante, c'est quand même des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, sauf si on a évolué en tant qu'assistante commerciale. Comment tu as vécu cette phase où en fait, finalement, tu as appris à te vendre ?
Oui, exactement. Et c'est pas forcément évident. Moi, je disais, j'ai toujours été une assistante qui allait vers les autres, qui faisait du networking, du réseautage, grâce à des associations d'assistantes, par exemple. J'avais cette facilité-là. Et une des premières choses que j'ai faites, c'est que j'ai cherché des occasions pour échanger avec d'autres entrepreneurs autour de moi tout de suite. Mais on a aussi, et je pense que c'est hyper important dans le contexte actuel, il y a des personnes qui souhaitent se lancer maintenant et elles se posent la question, mais comment je peux me lancer au jour d'aujourd'hui? Et en fait, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la préparation qu'on peut faire de son activité. Donc, s'assurer qu'on a des contrats, on a des assurances, on a créé ses flyers, son site internet ou au moins ses pages et ses profils sur les réseaux sociaux. Mais on peut aussi commencer le réseautage, ne serait-ce qu'en ligne, via les groupes, via les autres assistants, se faire connaître. Sur LinkedIn, si on a un cible préféré de clients avec qui on veut travailler, bah, allez les chercher, contactez-les sur LinkedIn. On est tous sur nos réseaux, ça peut être une solution, même si on peut pas sortir dans la rue et aller toquer aux portes.
C'est en quelque sorte, tu as du personal branding, hein, c'est sa notoriété sur les réseaux sociaux. Mais profitez aussi de toute l'expérience professionnelle, parce que bon, tu as de nombreuses années d'expérience en tant qu'assistante. Donc forcément, au fur et à mesure de nos expériences respectives, on construit un réseau, ne serait-ce qu'avec des prestataires, tous nos fournisseurs, tous les réseaux d'entreprises qu'on travaille pour une grande entreprise, ben, ou même auprès d'une PME, on développe forcément un réseau. Donc, ta première approche, est-ce que ça a été d'approcher justement ces personnes-là pour dire, bon, ben, maintenant, sachez que je me lance en tant qu'assistante virtuelle, peut-être que vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, partagez mon site internet, etc.
Oui, tout à fait. Je sais que pour moi, aller chercher les témoignages sur LinkedIn, c'était super important. Parce que ces témoignages-là se sont ensuite greffés sur mon site internet. Et je sais que, par exemple, moi, j'ai un très beau témoignage d'un prestataire avec qui j'ai travaillé lors de mon dernier emploi, parce qu'on a monté, le stand de notre entreprise pour un grand événement ensemble. Et donc, on a été amenés à travailler ensemble. Donc, elle m'a laissé un beau témoignage et franchement, ça fait super plaisir.
Super valorisant. Hein. Oui. C'est vrai que ce n'est pas une démarche facile forcément de demander un témoignage, mais LinkedIn facilite grandement les choses parce que les recommandations, finalement, la personne vous recommande, mais vous-même, vous pouvez lui redonner cette recommandation. C'est une relation gagnant-gagnant.
Exact. Plus valorisant et plus important que toutes les compétences. Parce qu'en fait, n'importe qui avec qui vous êtes en relation peut valider vos compétences sans forcément bien vous connaître ou sans avoir forcément travaillé avec vous. Moi, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens sur mon LinkedIn que j'ai jamais rencontrés en vrai, avec qui j'ai jamais travaillé. Donc, s'ils se mettent tous à valider mes compétences, c'est gentil, je vais pas leur dire stop ou leur dire non, mais en même temps, ça a moins de valeur que les vrais témoignages où là, on est obligé de dire, même si on ne voit pas pour les autres personnes, mais on est obligé de dire en quelle capacité on a été en relation avec la personne. Et je pense que oui, les témoignages, c'est ce qu'il y a de plus important.
Quelles sont les étapes nécessaires pour la création de ton statut d'assistante virtuelle?
Alors moi, j'ai vraiment approché ça d'une manière pas à pas. Je ne voulais pas brûler les étapes. Je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. Si vous m'aviez dit, il y a 5 ans en arrière, tu vas devenir ton propre patron, tu vas gérer une entreprise, tu vas avoir des personnes qui vont travailler avec toi. J'aurais dit, mais c'est pas possible. Enfin, jamais j'aurais imaginé ça. J'ai vraiment été étape à étape. Alors, j'étais un peu forcée parce que à l'époque, je devais passer par la Chambre des métiers et de l'artisanat et je devais attendre la fameuse formation, le SPI, le stage de préparation à l'installation. Quand je me suis lancée, il n'y avait pas de place. Donc déjà, je devais attendre ça. Je devais aussi attendre d'être inscrite à Pôle emploi définitivement pour bénéficier de la gratuité ou la prise en charge de cette formation. Et donc, du coup, toutes ces choses-là ont pris à peu près 8 mois. Oui. Donc, c'est vrai que c'était long. Et comme j'ai fait tout de suite du réseautage et je suis sortie tout de suite de chez moi à créer des liens avec des gens, j'ai trouvé des clients tout de suite. Et donc, j'ai dû trouver le moyen de commencer tout de suite. Donc, moi, je suis passée par le portage salarial. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un autour de moi qui était consultant en portage salarial pour la société. Et donc, du coup, j'ai échangé avec lui. Je lui ai montré mon CV, mon parcours, je lui ai montré mon projet, etc. Il a été convaincu. Il m'a dit, pas de souci, tu peux faire ça avec nous, vas-y. Donc, ça m'a permis de ne pas avoir à chercher une assurance pro tout de suite parce que j'étais couverte par eux. Même s'ils ne m'ont pas apporté de clients, j'avais quand même leur appui derrière, donc c'était sympa. Et je signais des contrats et je faisais des factures tripartites, en fait. Donc, je devais trouver mes missions, négocier les missions, négocier les tarifs, etc., les délais. Mais ensuite, ils étaient là pour un peu prendre en main le côté administratif. Donc, c'était une grande aide. Et ça m'a surtout... Je le conseille à d'autres parce que certes, ça a un prix, parce qu'il y a une partie de nos chiffres d'affaires qu'on ne touche pas.
Mais une plateforme de freelance, un petit peu, alors, le portage salarial.
Oui, mais c'est plus personnel parce que moi, je trouve les plateformes, elles sont tellement grandes, t'as pas forcément un contact personnel avec les gens. Là, c'était vraiment quelqu'un qui était proche physiquement de moi. Je pouvais aller m'entretenir avec lui. Enfin, c'était le portage salarial, c'était vraiment un peu plus comme une couveuse, en fait, une couveuse ou une DGE. Et ça m'a surtout permis de tester mon activité, de voir si vraiment j'avais envie de faire ça, de voir vraiment est-ce que j'allais arriver. Parce que quand j'ai eu l'idée, mon mari m'a dit, bah, vas-y, mais t'as un an pour voir si ça marche. Et j'avais la chance d'avoir Pôle emploi derrière, donc je pouvais me lancer plus sereinement. Donc ça, c'était ma première étape. À la fin de l'année, j'ai fait la formation SPI, j'ai eu envie de me lancer, de créer un vrai statut à moi, etc. Donc j'ai fait ça tout de suite. Et quand on a fait la formation, ils ont dit, bah, maintenant, vous pouvez prendre des rendez-vous. Et bah, moi, j'ai demandé le rendez-vous le 9h, le lundi, après la fin de la formation, le vendredi à 15h. je savais ce que je voulais faire. Donc voilà, donc je me suis... là, j'ai eu mon statut de micro-entrepreneur. Et ça, c'était le 1er décembre 2016. Là, j'ai vu grandir mon activité, donc je suis ravie. J'ai pu déléguer des tâches parce qu'au fur et à mesure, j'ai eu tellement de travail que je ne pouvais pas tout faire moi-même. Notamment, je donne toujours l'exemple de traduction parce que c'est quelque chose que je propose à mes clients que je fais. Mais je n'ai pas forcément la capacité intellectuelle et de le faire toute seule. Donc du coup, c'est quelque chose... Et j'ai eu la chance dans mon réseautage de rencontrer des gens qui étaient mieux qualifiés que moi et qui avaient des capacités pour le faire. Donc du coup, c'est quelque chose que je délègue. Et ça m'a vraiment permis... Alors, ça ne fait pas la première fois qu'on le fait parce qu'on se dit, mais... Est-ce que ça va marcher? Est-ce que la personne, elle va être vraiment performante, etc. Mais en fait, c'était vraiment top, super top. Et ça m'a permis de prendre des missions que j'aurais refusées autrement.
Tu le délègues, mais il y a peut-être des missions que tu préfères, en fait. Tu as une appétence pour certaines missions et tu préfères, du coup, déléguer ces missions-là, enfin, les missions qui te plaisent le moins, éventuellement, à d'autres personnes.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui m'a permis de faire grandir mon activité, de ne pas refuser du travail. Et j'avoue qu'il y a une petite satisfaction à se dire « je donne du travail à d'autres personnes ». C'est okay. Un feel good.
Est-ce qu'on pourrait faire une sorte de vie ma vie, en fait? C'est quoi une journée classique pour toi en tant qu'assistante virtuelle? Alors déjà, en tant qu'assistante, ce n'est pas évident, mais est-ce que tu peux essayer de nous faire un vie ma vie?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que tous les jours sont différents. Et c'est ça qui est magique aussi, parce que bah, les clients avec qui je travaille sont différents, les missions sont différentes. Top. Classiquement, alors on va parler hors confinement, parce que ça, c'est autre chose. Mais en général, bah, le matin, j'essaye de me réveiller, de gérer le départ des enfants pour le collège, etc. Mm-hmm. Et ensuite, de venir à mon bureau, de me poser des fois avec mon petit-déj, si je n'ai pas eu le temps de le prendre avant, de regarder un peu mes mails, regarder un peu mes missions pour la journée. Et puis j'attaque mission après mission. Voilà, je prends une pause pour le déjeuner. Je me force à faire de l'activité physique parce que sinon, c'est très facile de passer 12 heures dans un fauteuil et pas bouger. Mais c'est quelque chose que j'essaye de faire. Et puis après, l'après-midi, alors je suis adepte du time blocking. C'est-à-dire que j'essaye vraiment d'organiser mon emploi du temps selon mon rythme à moi. Et je sais que, par exemple, en début d'après-midi, je peux avoir des moments où je suis un peu moins performante que d'autres. J'ai un peu la fatigue de l'après-midi.
Et là, il y a la phase de digestion aussi, hein.
C'est exactement ça. Oui, exactement.
C'est pas un power nap, tu sais, vraiment, la petite sieste de 7 minutes, là, qui te booste.
C'est ça. et donc, j'essaye de respecter ça, de profiter des moments où je peux faire le travail un peu plus approfondi, par exemple le matin, ensuite de ralentir un peu le midi et en début d'après-midi. Donc à ce moment-là, je vais organiser des appels téléphoniques parce que c'est un bon moment pour parler, etc. Et ensuite, en fin d'après-midi, de reprendre une activité plus concentrée et plus approfondie. Après, j'ai la chance d'avoir trouvé les groupes sur Paris avec qui j'aime bien échanger. Donc, j'essaye aussi de respecter ces réunions-là, ces entretiens-là. Et en fait, j'essaye de caler mon agenda et mes moments avec mes clients sur Paris pour ces journées-là. Donc, Donc, j'ai des journées où je suis sur Paris pour ces réunions-là et j'ai envie d'y aller tous les jours. Mais c'est un choix. Je préfère vraiment travailler chez moi. Moi, j'ai choisi de ne pas avoir de... pas avoir de journée fixe ou de moment fixe pour des clients, mais je fais au fur et à mesure le travail qu'on me donne. J'ai des choses régulières qui reviennent tous les mois ou toutes les semaines, mais sinon, j'essaye d'être vraiment flexible et de m'adapter à leurs besoins. Et la règle d'or avec tous mes clients, quand ils me donnent une tâche à faire, c'est de me dire... Donc, combien de temps ça doit être fait? Est-ce que ça doit être fait dans les 24 heures? Est-ce que ça doit être fait dans les 3 jours? Est-ce que c'est pour la semaine d'après? Et comme ça, je peux dire tout de suite, oui, je peux. Non, je peux pas, mais j'ai une associée qui peut, ou une tante qui peut, ou non, c'est carrément pas possible. Et pour parler de confinement, une des premières choses que j'ai fait dès l'annonce du confinement, quand j'ai su que j'allais avoir mes enfants à la maison, que ça allait être plus compliqué, c'est que j'ai mis sur les réseaux sociaux une annonce comme quoi je continue à travailler, je continue à prendre des nouvelles missions, mais que je gérais aussi le travail d'école, etc. Dire à mes clients aussi que s'ils avaient besoin de moi, de me contacter via WhatsApp ou Messenger, si c'était urgent.
C'est vrai que c'est important de fixer des limites. Souvent aussi, peur des personnes qui souhaitent se lancer, c'est de se dire, mais en fait, je vais être toute la journée coincée dans mon bureau. Je vais peut-être connaître la solitude en freelance.
Les choses qui m'ont aidé moi, c'est que depuis le début, j'étais en binôme avec une autre assistante qui, elle, était à Londres, qui était à peu près 6 mois avant moi, devant moi dans la construction de son entreprise et de son activité. Et on échangeait une fois par semaine. Et ça, c'était vraiment formidable parce que on échangeait les projets qu'on avait, sur quoi on travaillait, on s'entraidait, on s'encourageait. Quand on avait des coups durs, on essayait de se booster. Et quand on avait des réussites, on fêtait ça, on se félicitait. Et ça, vraiment, c'était une aide précieuse. Je conseille vraiment aux autres assistants de trouver votre binôme. Parce que c'est vraiment quelque chose qui aide. L'autre chose aussi, c'est les associations. Alors, pour le moment, en France, on n'a pas trop d'associations d'assistantes virtuelles. On a le FFMAS qui a une cellule dédiée à ça. On a le AFSAI aussi qui se met en marche petit à petit. Donc, j'espère que ces choses-là vont prendre et grandir. On a surtout beaucoup de groupes sur Facebook, donc c'est top. Et on voit la solidarité qui commence à s'installer, etc. Mais ce qu'on ne fait pas encore, qu'on fait en Angleterre avec les associations anglaises, c'est on souscrit. On a des vrais adhérents et du coup, on paye forcément. On doit montrer comme quoi on est des assistantes vraiment professionnelles, on a les assurances pro qu'il faut, on suit les règles RGPD, etc. On a des contrats, on travaille pas à la louche avec nos clients, etc. Et ensuite, ces adhérentes, on a des calls entre nous, on fait des Zooms, etc. Et ça, on a un groupe sur Facebook, et ça, mais c'est génial. On s'échange, on se recommande les unes des autres, les unes des autres. Et ça, vraiment, j'espère que les groupes sur Facebook en France pourraient évoluer vers ce modèle-là pour être encore plus performant. Et je salue chaleureusement Daisy Palo, parce que Daisy, elle est donc une personne qui travaille avec moi. Qui a son activité d'assistante qui est basée à Lille et elle a commencé à organiser ces réunions-là, donc je la salue parce que c'est top et j'espère que ça continuera et ça prendra de l'ampleur ici en France.
Oui, c'est indispensable, des initiatives locales. J'ai pris connaissance via LinkedIn, qui est un réseau d'entrepreneurs qui fait sur Nantes, qui organise un déjeuner chaque premier mercredi du mois. Et ça, je trouve que c'est une formidable opportunité de rencontrer d'autres freelances qui n'ont pas forcément le même métier. Mais mine de rien, ça, c'est du réseau. Et je pense que c'est super parce que c'est top de rencontrer d'autres entrepreneurs aussi, parce que ça permet d'avoir des retours d'expérience sur comment ils ont créé leur entreprise, comment ils prospectent. Ça peut apporter que de la bonne énergie, se booster. Oui. Je trouve que ton concept, effectivement, trouver un binôme avec une autre assistante virtuelle qui n'est pas nécessairement effectivement dans la même ville, dans le même secteur, je trouve ça vraiment top. Je crois vraiment à l'empowerment des assistantes et j'encourage les initiatives locales, effectivement, que ce soit via les réseaux sociaux, via un groupe Facebook, comme tu l'as dit, ou via des rencontres. Moi, j'aimerais beaucoup, sur Nantes, une fois que je serai installée sur place, pouvoir éventuellement créer une petite communauté d'assistantes et qu'on se rencontre une fois par mois ou pour échanger sur les bonnes pratiques. Quel conseil tu donnerais à une assistante qui souhaiterait devenir assistante virtuelle ?
Je dirais d'abord, sache pourquoi tu le fais. C'est super important parce que l'aventure d'être secrétaire et d'être à son compte, c'est vraiment une aventure, c'est vraiment des montagnes russes, comme je le dis, c'est des hauts et des bas. Et si tu sais pas au fond de toi, si tu sais pas pourquoi tu le fais, tu vas tomber au premier obstacle. Donc ça, c'est important. Et ensuite, bien s'entourer. Parce que parfois, notre famille, nos amis proches, ils comprennent pas forcément nos choix. Bien s'entourer de deux, trois personnes qui comprennent, qui croient en vous. Je pense que c'est primordial. Et après, de vraiment faire les choses étape par étape, de pas essayer d'aller trop vite et de rester professionnel en toutes circonstances. Parce que dès qu'on se met en première ligne, pour faire une activité comme la nôtre, si derrière on a des choses sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément très professionnelles, ça donne pas envie, quoi.
Effectivement, ça paraît important d'avoir une bonne phase d'introspection déjà à la base, se poser les bonnes questions. Pour quelles raisons en fait on souhaite basculer d'un statut, on va dire, confortable, être dans une entreprise? Il y a plein de raisons qui peuvent pousser à ce choix. Se poser les bonnes questions, qu'on cherche un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ça peut être une bonne solution. Mais quand on a des enfants, il faut quand même qu'il y ait une nounou, etc. On ne peut pas avoir l'expérience de travailler et d'avoir les enfants en même temps. Je pense que tu le vis en confinement et tu vois bien que ce n'est pas possible. Mmh. Et beaucoup de personnes qui vont nous écouter vivent cette situation en remote work forcée avec les enfants et c'est très compliqué. Donc, il faut bien différencier l'aspect professionnel de la vie privée, aménager son propre bureau, s'équiper des outils performants, répondre aux besoins des clients, savoir se vendre. Il y a du personal branding. Moi, je vous invite toutes et tous à découvrir donc le super site internet de Jennifer, mybilingualva.com. Voilà, très très bien. Moi, je l'ai découvert tout à l'heure et justement en termes de personal branding, Jennifer, elle a créé une super vidéo pour se présenter, ses missions en tant qu'assistante virtuelle. Elle décrit aussi très très bien l'ensemble des missions qu'elle effectue. Donc, vous y retrouverez tout complètement en tant qu'assistante de direction, parce qu'il y a vraiment toutes les missions classiques d'une assistante. Et n'hésitez pas à contacter Jennifer, je pense qu'elle est disponible aussi pour répondre à toutes vos interrogations. Jennifer, est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin?
C'est carrément ça, n'hésitez pas à me contacter. J'ai vraiment à cœur de transmettre ce que j'ai pu apprendre et acquérir ces dernières années à d'autres personnes. Je vis vraiment par le principe collaboration et non pas compétition. C'est vrai qu'on pourrait se dire mais est-ce que je me lance ou est-ce que j'ai fait le bon choix de devenir assistante virtuelle ou secrétaire indépendante, parce qu'il y en a tellement. Mais il faut savoir que on est 7 milliards sur la planète, donc il y a des clients. Il faut juste bien cibler les personnes avec qui on a envie de travailler et bien aller les chercher et vraiment savoir que ce qui va faire de vous une assistante que les gens vont choisir, c'est justement vous. C'est qu'est-ce que vous apportez de plus que la personne à côté, même si vous avez exactement les mêmes capacités techniques. C'est vraiment votre personnalité qui va primer. Et certes, il peut y avoir des gens qui ne vous choisissent pas. Et quand on se lance, on peut essuyer des non, des refus, et c'est compliqué à gérer. Mais gardez le moral, gardez confiance en vous. Les oui, ils vont arriver et je suis carrément, j'ai vraiment envie de rendre un peu de ce que j'ai pu recevoir ces dernières années. Donc je suis sur les réseaux sociaux, on peut facilement me contacter.
Merci infiniment pour ton témoignage. J'espère que ça va inspirer d'autres assistants.
Tous les gens qui nous regardent, suivez The Office Unicorn. C'est une super initiative et je l'applaudis très fortement.
Merci, ça me touche profondément.